13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Vous savez, Dessus de table, c'est l'émission qui mange le morceau. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous. On parle de cuisine tous les samedis sur Beurre FM avec Manuel Mariani, critique gastronomique et grand influenceur. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe.
Et en plus, vous êtes, vous parlez chinois.
Watien Putong, ça veut dire je ne parle pas chinois.
Ah si, vous avez fait une démonstration sur antenne.
Je baragouine.
Je prends à témoin les auditeurs de Beurre FM. Manu, vous parlez aussi bien chinois que corse.
Oui, mais je ne parle pas très bien corse, donc...
Je ne sais pas comment on doit le prendre. Spécial Nouvel An chinois avec plusieurs invités. La première, c'est Virginie Godard qui nous a rejoint. Bonjour Virginie, bienvenue.
Bonjour.
Vous avez fondé le Food Market de Paris.
Exactement.
Qui se met aux couleurs du Nouvel An chinois, en fait.
Tout à fait, le 7 février prochain.
Voilà, et puis à Lyon aussi, de temps en temps.
Oui, Place Saint-Louis dans le 7e.
D'accord.
Bien, c'est quoi le food market pour ceux qui y sont encore jamais allés?
Alors, le food market, c'est un marché cantine, on l'a dénommé comme ça. L'idée, c'est qu'on prend place sur un marché parisien, sur les étals d'un marché, et à la place des fruits et légumes, on a des restaurateurs qui sont sélectionnés pour le goût de leurs produits et qui viennent nous préparer des petites spécialités culinaires.
Et c'est pas les gens qui veulent venir qui viennent, c'est vous qui les sélectionnez vraiment. Il y a vraiment ce côté, on vous donne le meilleur de ce qu'on veut.
Exactement, on fait une sélection pour être sûr que ce soit bon, déjà, et que les démarches derrière, elles soient faites maison et puis avec des bons produits.
Bon, et pour le Nouvel An chinois, alors, comment vous procédez?
Alors, pour le Nouvel An chinois, on a eu envie de parler de cette gastronomie souvent méconnue en France. Et du coup, on s'est entouré de Chinois, puisque nous, dans l'équipe, on aime beaucoup ça, mais on n'est pas Chinois. On avait besoin d'aller au fond du propos. Et du coup, on a sélectionné le meilleur avec les équipes de la taverne de Zhao, de Chao, visiblement.
Voilà, oui, la taverne de Zhao, oui, Chao, comme vous dites. C'est un restaurant chinois assez bien connu, hein, qui est un peu dans le Boboland du 10e, je dirais, hein, où on mange très très bien et qui font de la cuisine du Shanxi. Alors je sais pas si
exactement.
Je prononce bien moi aussi.
Hein. Et de la ville de Qian.
Voilà, ouais. Et c'est un restaurant effectivement qui est très qui est assez à la mode, qui est très fooding, alors qu'il fait pourtant de la cuisine assez typique. C'est la troisième année que vous faites le Nouvel An chinois cette année. Et oui. Donc à chaque fois vous faites la sélection en collaboration avec
En collaboration complète et totale entre nos deux équipes, où on se déplace à chaque fois tous ensemble dans les différents restaurants pour goûter, pour rencontrer les gens et oui.
Il y a deux restaurants, hein. Il y a Monsieur Zhao et la taverne de Monsieur Zhao, c'est ça.
Tout à fait, ils ont commencé avec la taverne de Zhao, qui était l'idée de faire découvrir les spécialités du Xi'an, voilà, avec un truc un petit peu plus élaboré, et Monsieur Zhao, Monsieur Zhao, qui lui défend la street food, plus avec des momos, on en parlera, ces petits sandwichs, avec des choses à emporter...
En totale adéquation avec le concept
avec le
street food du food market. Oui, donc les momos qui sont des brioches, je dirais, des espèces de buns, ouais, des petits buns.
Exactement, des pains népalais, de blé, ouais, qui sont fourrés derrière avec du porc mijoté ou alors de l'aubergine.
Bon, elle l'a dit, avec du porc mijoté. Quand on veut manger chinois et qu'on mange pas de porc, comment on fait? Est-ce que c'est très compliqué ou pas?
Non, il y a plein de spécialités. Les Chinois mangent énormément de légumes frais donc, et de poissons. Donc il n'y a aucun souci pour pouvoir venir sur le food market. Il y aura beaucoup de spécialités hors porc.
Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est très pointu comme sélection. Hein, c'est pas les restaurants chinois comme vous avez souvent l'habitude d'en fréquenter. C'est vraiment une sélection qui est très 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 pointue. Ça, il faut le dire. Hein, c'est l'occasion de goûter. Et Manu le répète souvent, on parle de cuisine chinoise, mais c'est les cuisines chinoises.
Oui, totalement. Bah, les gens qui me suivent un peu à la radio ou ailleurs savent que je suis passionné de cuisine chinoise et que c'est une cuisine que je connais assez bien. Et j'ai été agréablement surpris dès la première édition du food market dédié au Nouvel An chinois de voir que j'avais finalement une certaine méconnaissance de certaines adresses.
Je vous le dis
clairement. Puis les auditeurs me connaissent, j'ai pas l'habitude de faire des flatteries et je suis pas quelqu'un de toujours gentil. Donc si je le dis, c'est vraiment que je le pense.
Ah, je confirme. Alors là. Bien. Quelle est l'adresse du food market pour ceux qui veulent s'y rendre?
Alors c'est entre les métros Ménilmontant et Couronne, puisque c'est sur le boulevard de Belleville. On peut donner le numéro 11 du boulevard de Belleville si.
C'est le point de départ, c'est le point de ralliement.
C'est pour les gens qui sont vraiment branchés sur les numéros.
Voilà, si vous voulez dire bonjour à Virginie Godard, ça démarre au 11 boulevard de Belleville.
À peu près, voilà, c'est par là.
Voilà, quartier popu. On ne paie pas d'entrée, c'est un marché.
C'est un marché. L'idée, c'était de pouvoir rentrer, de ne pas se poser la question, est-ce que j'ai le droit de rentrer? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ce n'est pas pour moi? Et un marché parisien, personne ne se pose la question, tout le monde y passe.
Et après, donc, les gens, quoi, ils achètent sur les stands?
Oui, il y a des stands, des étals. Ils viennent, ils achètent directement au stand de leur choix, directement avec le moyen de paiement aussi qu'ils souhaitent. Il n'y a rien de charté chez nous. Et ensuite, ils le prennent soit emporté chez eux tranquille, soit sur les grandes tablées qu'on met à disposition pour pouvoir manger sur place et passer la soirée sur le food market.
Oui, vous avez installé des grandes tables d'hôtes. Vous installez des grandes tables d'hôtes, effectivement, où on peut s'asseoir, déguster, avant de repartir à un autre stand, goûter autre chose. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas très cher. C'est-à-dire que c'est maximum 10€, je crois, le plat. Hein.
Le plat est plafonné à 10€. C'est un gros plat. Et l'idée, on en parlait, c'est de pouvoir picorer, de pouvoir découvrir pas mal de spécialités, pas se contenter d'un stand. Mais c'est aussi, si on veut un plat, de pouvoir le manger pour un prix qui soit limité, un prix street food, un prix dans la rue.
D'accord. Alors, quand vous faites, parce que vous avez déjà une expérience maintenant sur l'édition Nouvel An chinois du food market, est-ce que vous avez beaucoup de gens de la communauté chinoise qui viennent? Parce que c'est vrai que le Nouvel An chinois, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en famille. Est-ce que du coup, les jeunes Français d'origine chinoise sont séduits par ce côté un peu food court?
Ouais, c'est notre grande victoire. Alors, c'est aussi le travail cumulé et joint des deux équipes. Hein, franco-chinoise, mais c'est vrai que souvent le spectateur français de toute origine est assez spectateur pour le coup du Nouvel An chinois. Il va venir se rendre dans le 13e à Belleville, il va regarder d'un air extérieur, mais à aucun moment les deux communautés se mêlent pour le fêter. Et ce qu'on a réussi à faire, je pense, c'est à fédérer les deux communautés. Donc on a beaucoup de Chinois, de communautés chinoises, de cibles chinoises qui viennent et qui se rendent sur le food market et qui se mélangent à la cible habituelle des food markets qu'on organise toute l'année.
Alors Manu, quelques idées et quelques adresses pour ceux qui voudraient manger chinois pour le Nouvel An chinois.
Alors, comme d'habitude, énormément de choses, Philippe. Nous avons... alors attendez, alors, je suis perdu, Philippe.
Est-ce que vous voulez que je vous recale votre prompteur, Manu?
Allez-y, recalez-moi le prompteur.
Non, tenez, alors, regardez, je vous tends votre prompteur à droite, ça se passe en direct, sinon c'est Mylène Farmer qui présenterait l'émission.
C'est magnifique.
Voilà, donc... Manu, quelques adresses pour ceux qui voudraient.
Nous parlions effectivement du food market.
Est-ce que vous pourrez en parler dans votre micro, surtout, Manu?
Je vais en parler dans mon micro. Je suis complètement perdu parce qu'on a inversé un petit peu l'ordre de l'émission et me déstabilise.
Je vois bien que. Allez, Manu, grand professionnel. Retombez sur vos pieds.
Pour commencer, Philippe, ça y est, hop, j'y suis. Alors, pour commencer, un très beau menu au Lys d'Or, Philippe, que vous connaissez, on est allé manger ensemble d'ailleurs, de rue Cialini dans le 12e, hein, qui sera servi du 2 au 5 février inclus, parce qu'on va en discuter tout à l'heure. On va voir que le Nouvel An chinois, c'est pas comme le 31 décembre chez nous, on fête le Nouvel An puis après on passe à autre chose, hein, ça dure plus longtemps que ça. Donc du 2 au 5 février inclus, c'est un menu qui est à 55€ par personne, qui débute avec un cocktail maison, un potage de courbe à la chair de crabe, puis un assortiment de hors d'œuvre varié avec des raviolis vapeur, une salade chinoise aux crevettes, du canard frit qu'on roule dans des petites crêpes de blé, ça c'est une spécialité.
Ça, c'est génial.
Cantonaise, c'est délicieux. Et puis ensuite, un plat que j'adore, c'est du lieu jaune avec du tofu braisé à la sauce Hong Chao. Alors, la sauce Hong Chao, c'est une sauce qui est très légèrement sucrée, mais un petit peu relevée également, servie avec du riz sauté. Et pour finir, ça aussi, c'est très traditionnel, du riz gluant à la mangue et au lait de coco. Voilà, donc ça, c'est au Lys d'Or. Pour réserver, vous allez sur le site www.lysdor.com ou par téléphone 01 44 68 98 88.
Alors, d'autres adresses, hein, pour les amateurs de bling-bling.
Ah oui, si vous aimez les endroits très luxueux, comme Philippe Robichon, hein, qui aime bien les grands hôtels, et que vous êtes prêt à casser votre tirelire, le Palace parisien de Shangri-La propose un menu Nouvel An chinois dans son restaurant, le Shang Palace, dont les fourneaux sont tenus par l'excellent chef Samuel Lee, qui était le chef étoilé du alors c'est un restaurant qui est étoilé à Paris, hein, le Shang Palace, et donc Samuel Lee était étoilé lui-même à Wenzhou et puis il est venu en France après. Donc ce sera le 5 février, hein, pour le Shangri-La, avec un magnifique menu dégustation en 8 plats. Bon, là effectivement on est quand même dans un palace, donc le menu il est à 138€, puis il y aura aussi des animations, des danses traditionnelles et puis quelques surprises.
C'est drôlement cher votre histoire, Manu.
Bah oui, mais c'est un palace, Philippe, hein, qu'est-ce que vous...
Non, le Shangri-La c'est un des plus beaux hôtels de Paris,
et c'est... c'est magnifique,
Bon, ils font des plats traditionnels dans leur menu du
Ah, totalement, totalement. Oui, oui, non, non. Le Shangri-La, ils font vraiment un menu donc en 8. Alors, Samuel Lee, c'est quand même aussi un grand chef, donc il met aussi sa patte personnelle hein, dans sa cuisine. Donc, certains plats sont un petit peu revisités façon haute gastronomie, mais ça reste d'inspiration totalement, totalement traditionnelle, Philippe, parce que on en parlera aussi tout à l'heure. Les plats qui sont servis pendant un menu de Nouvel An ont une symbolique, une signification très, très importante.
Voilà. Alors, d'autres idées, Manu ?
Oui, bah alors déjà, si vous voulez réveillonner à la maison, il y a Lidl, comme chaque année, ils font un rayon.
Lidl, c'est la grande surface. Hein.
Ouais, Lidl, ouais. La grande surface. Ils font un rayon de produits chinois à petit prix. Alors, je vous garantis pas l'authenticité, mais enfin, si vous voulez bricoler un petit truc à la maison avec quelques potes, hein, vous allez chez Lidl, vous faites vos courses, et puis comme ça, vous pouvez faire une petite soirée Nouvel An chinois. Mais bon, pour l'authenticité, hein, vous allez plutôt au Lys d'Or ou au Food Market. Là, vous aurez des choses plus authentiques. On peut aller à Thoiry aussi, Philippe, si vous voulez, vous qui aimez les animaux.
Mais laissez-moi tranquille.
vous voulez pas que je révèle tout sur vous,
non,
c'est ça ?
Non, c'est vrai. J'aime les animaux, oui. Voilà, vous avez raison.
Non, alors donc, à Thoiry, pour le Nouvel An chinois, le Zoo Safari de Thoiry immerge ses visiteurs au cœur des traditions chinoises avec Thoiry Lumière Sauvage. Et donc, on peut visiter le zoo de Thoiry, mais avec tout un tas d'illuminations, donc à mi-parcours du parcours de visite habituel.
Est-ce qu'on mange ?
Alors non, on ne mange pas.
Ah ben voilà.
Ah bah oui, mais c'est le Nouvel An chinois quand même.
D'accord,
Philippe,
hein. D'accord, mais on mange pas. Ouais.
Donc à mi-parcours du Zoo Safari, on va tomber sur les 12 signes astrologiques chinois, que soit le coq, le singe, le dragon, donc cette année le cochon, et qui vont être illuminés, donc des créatures de lumière, hein, et puis beaucoup de lanternes aussi, puisque les lanternes font partie de la tradition du Nouvel An chinois. Et toutes ces œuvres, elles sont réalisées à la main dans la plus pure tradition chinoise. C'est très dépaysant, ça va être très dépaysant, et ça va être magnifique. Il y aura plus de 600 lanternes, ça va être très joli. Il y aura un marché d'artisans chinois aussi, des spectacles d'acrobates avec des troupes du cirque du Sichuan. Voilà, ça va être à mon avis très sympa. Alors, je n'ai pas les prix, mais sur le site du zoo de Thoiry, vous aurez le détail.
Bien. D'où vient cette idée, Manu, qu'on mange du chien en Chine ?
Alors, il y a eu des périodes en Chine où effectivement, parce que le chinois ne mange pas de chien à la base, hein, je le précise, puis ça fait aussi partie
des lubies, soit
par méconnaissance, soit par xénophobie. Hein, d'ailleurs, justement, l'expression va très bien, hein, c'est quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Bon, bah là, éventuellement, peut-être qu'on le mange, je ne sais pas. Mais non, il n'y a pas de chien dans la gastronomie chinoise, mais effectivement, pendant certaines périodes de famine en Chine, il y a eu des périodes où on mangeait ce qu'on trouvait, donc on mangeait on dit en Chine, tout ce qui a quatre pattes et qui marche se mange, donc pourquoi pas les chiens, pourquoi pas les rats, etc. Donc c'est pas vraiment ça, mais de toute façon aujourd'hui c'est même interdit, hein, en Chine, dans la loi chinoise, il est interdit de manger du chien.
Bien, en tout cas, on parle de ce Nouvel An chinois à travers ses spécialités culinaires. Dans un instant, on revient et nous aurons donc notre invitée qui nous rejoindra. Elle s'appelle Grace Lee.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
C'est un spécial Nouvel An chinois aujourd'hui jusqu'à 13h sur Beurre FM avec Manuel Mariani. Toujours là.
Toujours là, Philippe.
Virginie Godard qui a fondé le Food Market à Paris. On nous redemande l'adresse et les horaires.
Alors les horaires, c'est de 18h à 22h30. Et l'adresse toujours entre les métros Ménilmontant et Couronne.
Voilà, donc ça sera dans quelques jours, le 5 février, un spécial Nouvel An chinois. Donc avec plein d'adresses très pointu, hein, une très belle sélection de tables. Et puis, il y a une offre sucrée qui s'étend un petit peu aussi, hein, cette année.
Avec un peu plus de stands que l'année passée.
Voilà, Grace Lee nous a rejoint. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Voilà, vous êtes écrivaine et blogueuse à succès et animatrice du podcast Kif Taras avec Rokhaya Diallo, notamment. Votre livre s'appelle Jeune fille modèle aux éditions Fayard. On va parler avec vous des traditions qui se rapportent au Nouvel An chinois.
Eh oui, absolument, oui. Alors déjà, Xinan Kuaila, Philippe, hein, c'est du mandarin, ça veut dire bonjour.
Oui, ça s'aggrave.
Voilà.
Vous disiez tout à l'heure que vous ne parliez pas, mais...
Donc, Grasseline n'a pas rigolé, donc ça veut dire que je me suis pas trop planté sur la prononciation.
Non, mais je me permettrai pas de me moquer de votre accent.
Ah bon, d'accord. Bon, ça me rassure, parce qu'il y a de quoi dire. Alors, ouais, donc, Philippe, le nouvel an chinois, ça correspond au nouvel an lunaire. Hein, on l'appelle aussi fête du printemps. En Asie du Sud-Est, on parle plutôt de fête du Tet. D'ailleurs, je crois que vous avez la double culture, hein, Asie du Sud-Est et Chine.
Ah oui, mes parents sont d'origine chinoise du Cambodge. Donc, alors, le Tet, c'est au Vietnam. Mais au Cambodge aussi, les Chinois fêtent le nouvel an lunaire, alors que le Cambodge, de tradition bouddhiste, fête le nouvel an bouddhiste qui
Vos
a lieu en avril.
Vos parents sont Teochew peut-être, non c'est ça
alors, mon père était Teochew du
D'accord,
Cambodge.
Ouais.
Oui.
Okay. Parce qu'il y a beaucoup effectivement de Teochew qui étaient en Cambodge, en Thaïlande.
Oui, c'est une région en fait de Chine, du sud de la Chine, et voilà, il y a une émigration dans le sud.
D'accord. Alors, le Nouvel An chinois, c'est la fête la plus importante des célébrations traditionnelles chinoises. C'est un moment dont on profite en prenant d'ailleurs des vacances en général pour avoir le temps de rendre visite à toute sa famille, parce que la Chine, c'est grand et on peut avoir de la famille un peu partout. En Occident, on fait une journée de festivité, mais en Chine, ça débute le premier jour du premier mois du calendrier lunaire et ça se termine au 15e jour. Et le 15e jour, c'est le jour de la fête des lanternes. On en parlait justement juste avant, et on parlera un peu plus des lanternes et de la symbolique des lanternes dans un instant, Philippe.
Alors, si j'ai bien compris, Manu, cette année, le nouvel an chinois, c'est pas vraiment halal.
Ah non, pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'en 2019, c'est l'année du cochon. Et donc, du cochon de terre même, hein, parce qu'on accole généralement...
Faut pas confondre.
Voilà, le cochon de terre, parce qu'on accole généralement...
Le cochon de mer.
Un élément, ça peut être l'eau, ça peut être le feu ou la terre. Non, on ne dit pas la mer, on dit l'eau. Hein. Il y a des signes d'eau aussi, certaines années. Voilà, donc l'horoscope chinois, on a effectivement un animal et un élément.
Bon, alors vous êtes gros cochon, mais est-ce que vous avez des exemples de cochons célèbres à nous donner?
Ah oui, il y en a même pas mal. Quelques chanteurs célèbres, par exemple, Bryan Adams, Calogero, Charlotte Gainsbourg, David Bowie, Elton John, Mary J. Blige, Mathieu Chédid, Michel Sardou, vous voyez, c'est très, très varié. Hein.
Là, vous les balancez en direct.
Absolument, oui. Absolument.
Sous
Snoop Dogg même, ou Iggy Pop, que vous aimez bien, Philippe.
Oui, très très bien.
Hein, qui est cochon également, mais aussi, je ne sais pas, Adriana Carambeu, Alexandra Lamy, Alfred Hitchcock, Schwarzy.
Et on ne peut pas le mettre au féminin, parce que sinon c'est affreux.
Ah bah écoutez, je ne sais pas si Adriana Carambeu est une cochonne, je ne sais pas si elle aimerait qu'on le dise.
Bien. Alors Manu, pour en venir à la nourriture et à la tradition, quel genre de célébration on pourra trouver durant ces fêtes?
Alors lors du Nouvel An chinois, il est tradition de proposer des spectacles de danse des lions, qu'on appelle à tort danse des dragons d'ailleurs.
Hein. Il y a les deux.
Oui, mais ceux qu'on appelle souvent dragons, en général on les confond avec les lions, parce que c'est effectivement des têtes un peu stylisées.
Allez-y,
Grâce.
Je ne sais pas comment vous pouvez confondre le tigre et le dragon, en fait. Il y en a un qui vole. Et il y en a un qui crache du feu. Enfin, là, non, c'est assez distinct. C'est-à-dire que la danse des lions, alors vous avez dit lion ou tigre, je ne sais plus. Bon, bref, pardon, excusez-moi. Le tigre, c'est le signe astrologique. Et la danse du lion, c'est une danse qui est traditionnelle de célébration. Et il y a aussi. Le dragon, c'est pas une danse, en fait. C'est. C'est un animal, il est dans l'air et
Une espèce de totem, quoi.
Il n'y a pas de danse, en fait. C'est juste j'ai pas vu.
Voilà, mais ce qu'on voit défiler avec une longue queue, il y a des gens en dessous qui l'animent, etc. En fait, ça, c'est la danse des lions, qu'on appelle souvent danse des dragons à tort.
Ah bon, jamais eu ces gens-là en face, mais sinon, je leur dirais.
Non, mais vous fréquentez qui, Manu?
Mais c'est pas.
Vous fréquentez que des gens qui connaissent.
C'est parce que Grasse fréquente des gens qui connaissent bien. Mais moi, je fréquente tout le monde. D'ailleurs, ce sont souvent des jeunes des clubs de kung-fu, hein, parce que c'est assez physique d'animer la bébête. Hein,
ouais.
D'ailleurs, on l'a vu l'année dernière au food market, Philippe, on avait vu effectivement la danse des
lions. Toutes les heures, c'est ça?
Des lions.
On a deux fois dans la soirée.
C'est
assez sport, donc effectivement, on les ménage.
Voilà, alors très traditionnel aussi, il y a des danses d'éventail qu'on fait souvent pendant le Nouvel An chinois. Et puis donc, comme je vous le disais, on clôture les festivités par la fête des lanternes. Alors on allume beaucoup de lampions chinois, certains sont également prévus pour s'envoler. Ça symbolise le départ de l'année précédente et puis le passage à la nouvelle année. Je regarde beaucoup Grasse pour voir quand elle arrête d'opiner du chef.
Je vous donne une note à la fin.
Voilà, quand Grasse arrête de dire oui, ça veut dire que je dis une bêtise. C'est également l'opposé. l'occasion de proposer beaucoup d'événements artistiques ou culturels, notamment à Paris, où réside la plus grande partie de la communauté chinoise, Philippe.
Ça se passe où, Manu ? Ça se passe dans la Chinatown du 13e ?
Alors oui, mais pas seulement, parce qu'il y a plusieurs quartiers chinois à Paris. Mais pour ce qui est du 13e, on attend tout de même plus de 200 000 spectateurs cette année. C'est le défilé le plus populaire, mais aussi le plus ancien, parce qu'il a été inauguré dans les années 80. Alors, cette année, il aura lieu le dimanche 17 février à 13h30. Le défilé partira du 44 avenue d'Ivry, puis ensuite il empruntera l'avenue de Choisy, le boulevard Masséna, et il reviendra avenue d'Ivry. Donc il fait le tour du quartier chinois historique et emblématique de Paris. Beaucoup d'événements auront lieu également dans le 13e jusqu'au 17 février, comme des expositions d'artistes chinois, des concerts, des projections, des débats, des lectures de contes pour les enfants, mais aussi des spectacles plus contemporains avec des découvertes de musique urbaine et pop-rock chinoise, ou du stand-up chinois, de la magie, de la danse K-pop. Alors là, je ne sais pas pourquoi de la K-pop, parce que c'est plutôt coréen. Des groupes de jeunes chinois qui font du hip-hop aussi, ainsi que des démonstrations d'arts martiaux. Alors tout le programme est disponible, pour le programme détaillé, sur le site internet de la mairie du 13e.
Et je voulais dire qu'à cette occasion, donc, je projetais mon film, ma web-série documentaire La mairie du 13e, le 9 février à 19h. Donc si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus. C'est une série documentaire qui s'appelle « Ça reste entre nous ». Et qui parle de problèmes de société et donne la parole aux personnes asiatiques en France.
D'accord. Est-ce que il faut s'inscrire ? C'est entrée libre ?
Alors c'est entrée libre. Il faut s'inscrire sur le site
de la mairie. C'est ça, oui.
La mairie a un lien et il y a aussi un événement Facebook.
Très bien. D'autres événements dans d'autres quartiers, Manu ?
Oui, alors dans le 3e, qui est plus le quartier de la communauté Wenzhou, la mairie et les associations du quartier proposent une semaine culturelle aux couleurs de la Chine, évidemment. Donc le traditionnel défilé du dragon et des lions avec les chars et les costumes se déroule le dimanche 10 février dès 14h au départ de la place de la République. Les autres manifestations se déroulent en majorité à la mairie du 3e, hein, qui est très impliquée chaque année au niveau du Nouvel An chinois, avec des expositions, des conférences, des ateliers, spectacles de danse ou de musique, des récitations de contes ou de poèmes aussi pour les enfants, des cours de danse traditionnelle et du chant choral. Philippe, ça, je sais que vous allez y aller parce que vous êtes un chanteur émérite.
Et puis c'est dès que j'ai terminé au zoo, hein, parce que je peux pas me dédoubler tant que ça.
Voilà. Et on pourra également s'initier à la médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est intéressant également. Alors là, toutes les infos sont également en ligne sur le site de la mairie du 3e.
Et qu'est-ce que vous nous proposez ensuite ?
Alors pour le reste, de nombreuses autres animations auront lieu dans le quartier de Belleville notamment, mais aussi à Courbevoie ou à Noisy-le-Grand, où il y a des communautés chinoises assez importantes. Le plus simple étant de consulter les sites internet des mairies pour connaître tout le programme en détail, puisqu'au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore en ligne. Donc ils ont du retard, il faut qu'ils se dépêchent.
Bien. Quelles sont les traditions qui s'attachent grâce au Nouvel An chinois ? Est-ce qu'on se fait des cadeaux ? Est-ce qu'il y a des enveloppes qu'on se remet ?
Alors je voulais faire une précision, c'est-à-dire qu'on vous parlait de Nouvel An chinois, parce que les Chinois le fêtent, mais c'est en fait en Asie le Nouvel An lunaire, ce n'est pas uniquement la Chine qui le fête.
Ouais, c'est quand même plusieurs pays.
Il y a
pays,
d'autres pays de tradition, voilà. Alors le Japon ne le fête pas, il fête le calendrier à la même date. Le Nouvel An, c'est l'année grégorienne, et donc il y a plusieurs personnes, notamment les Vietnamiens, et il y a beaucoup de Vietnamiens en France. Donc moi je pense que c'est plus juste de dire le Nouvel An lunaire et ensuite évidemment de le décliner en fonction des personnes issues de communautés différentes. Alors moi je suis d'origine chinoise, effectivement.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on ne connaît pas, on a tendance à essentialiser. Donc effectivement il y a à dire oui, c'est le Nouvel An chinois, mais c'est important finalement d'être précis.
Non mais c'est, en fait oui, du coup d'être précis dans l'élargissement, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, c'est juste de dire le Nouvel An chinois quand vous parlez à une personne chinoise, puisque moi, je suis chinoise, ça me choque en rien que vous me dites le Nouvel An chinois, puisque je suis chinoise. Mais les festivités à Paris, notamment, doivent plutôt être nommées Nouvel An lunaire, puisque beaucoup de personnes participent à ces festivités qui ne sont pas forcément chinoises. Il n'y a pas que des Chinois qui vivent en France, et il n'y a pas que de descendants de personnes chinoises. Donc du coup, comme c'est quelque chose en plus de très ouvert et que de nombreuses personnes viennent y participer, je pense que c'est plus juste de dire ce qui
Nouvel An lunaire, oui. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que le raccourci Nouvel An chinois, il est un peu lié justement à la méconnaissance du public français qui appelle ça le Nouvel An chinois, de la même manière que si quelqu'un va au restaurant, il mange un rouleau de printemps et un boboon, il va vous dire j'étais au chinois, alors que c'est vietnamien, vous voyez.
Absolument.
Donc il y a une certaine méconnaissance qui fait que on mélange un petit peu tout. Et c'est vrai que le nouvel an, dire le nouvel an chinois, c'est un résumé, mais effectivement, c'est le nouvel an lunaire.
Hein. Et donc, moi, pour les traditions, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une fête familiale déjà, parce que c'est avec nos proches qu'on célèbre ce passage dans une nouvelle année. Donc moi, souvent, je fais des... Je fais ça en famille. Il y a des plats emblématiques qu'on mange au Nouvel An chinois, dans ma famille chinoise. Donc, il faut forcément du poisson. Mes tantes font du poisson parce que le mot poisson en chinois, c'est yu en cantonais, et c'est un homonyme de la prospérité. Voilà, on mange des clémentines parce
Alors,
que.
Alors, je vous arrête juste deux secondes sur le poisson, parce que le poisson au Nouvel An chinois, il doit être servi obligatoirement avec sa tête. On ne doit pas le servir en filet, on doit le servir entier avec sa tête.
Alors, est-ce moi, que vous c'est savez toute l'année la en fait avec la tête.
Hein, d'accord. Alors, pourquoi on le sert avec la tête obligatoirement?
Eh ben, parce que c'est meilleur en fait.
Oui, on mange les joues déjà.
Voilà. Ouais. Non, mais moi, chez moi, les poissons sont servis entiers avec la tête. Ma grand-mère adorait manger les yeux de poisson et la tête de poisson, c'était sa partie préférée. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle elle trouve que c'est un scandale de jeter des parties. Voilà, c'est gâché pour elle de couper la tête du poisson chez le poissonnier. Elle disait surtout donnez-moi la tête. Mmh.
Mais votre grand-mère est une grand-mère qui ne gâche rien. De
ah oui,
façon.
Elle est très 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 trendy. Donc, hein, c'est-à-dire voilà. qu'elle zéro déchet, zéro gâchis. Elle connaît.
Tout se récupère.
Elle était écolo avant que ce soit la mode.
Ah non, mais oui, mais c'est elle, la pionnière.
Et d'ailleurs, je crois que chez les cantonais, mais peut-être dans d'autres régions, vous allez peut-être pouvoir nous le dire, mais quand on a un invité d'honneur et qu'on sert un poisson, la tête doit être tournée vers l'invité d'honneur, apparemment.
Ah d'accord, non, ouais. Moi j'ai pas cette... je connaissais pas ça. Alors, après, je suis pas du tout une
experte. Je sais que ça se fait à Canton, hein, mais oui, non, mais de toute façon, la Chine, c'est tellement grand.
L'étiquette, hein, mais... en tout cas, voilà... chez nous, on servait d'abord les aînés, toujours. C'est-à-dire qu'on servait les aînés des meilleurs morceaux. Et ensuite, on pouvait, nous, les enfants, se servir. Donc, il y a plein de plats qui sont emblématiques. Et pour les cadeaux, donc, il n'y a pas de cadeaux physiques. C'est effectivement des enveloppes qu'on distribue. Enfin, les adultes distribuent des enveloppes aux enfants et aux aînés.
Oui, sur des petites enveloppes rouges. Hein,
voilà,
le rouge est très présent hein, au moment du Nouvel An
Absolument,
chinois. Le rouge, c'est la couleur
de la
vedette.
Prospérité, ouais. Du bonheur, voilà, de plein de choses très positives. Donc, c'est quelque chose de joyeux. Et
c'est une couleur ou c'est la couleur de la prospérité, le rouge?
C'est la couleur du bonheur. Donc,
du bonheur.
Dans le bonheur, vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre.
Ouais, ouais.
Certains D'accord. demandent la fertilité, certains demandent la prospérité, d'autres demandent voilà, le bonheur marital, de trouver l'âme sœur. Voilà. Vous y mettez ce que vous voulez et toutes ces requêtes, tous ces souhaits sont dans les traditions.
Oui, alors la numérologie aussi, c'est très important parce que par exemple, quand on regarde les numéros de téléphone des restaurants chinois à Paris, il y a beaucoup de 8 dedans parce que le 8, c'est l'argent, c'est la réussite financière.
Alors le 8, ça veut dire, c'est fa en chinois, donc le 8 est un homonyme du mot... prospérer, c'est-à-dire voilà, multiplier, multiplication. Donc évidemment, c'est voilà, mais il n'y a pas que le 8, hein, il y a aussi le 6, le 9, il y a d'autres chiffres qui sont homonymes qui représentent quelque chose de positif, et il y a aussi des chiffres qui sont proscrits, donc notamment le 4, puisque c'est un homonyme de la mort, donc say.
D'accord, oui, mauvais présage.
Voilà, et donc si vous voulez, voilà, vous essayez de ne pas avoir ce numéro-là, mais bon, ça c'est des superstitions qui sont... pas forcément, qu'on ne retrouve pas forcément dans la vie quotidienne.
Gracie, vous êtes notre invitée également. On va continuer à parler hein, ce matin des traditions culinaires qui se rattachent à ce Nouvel An chinois.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Voilà, et à l'occasion du Nouvel An chinois, vous avez compris que bon, l'expression peut donner lieu à amélioration. Nous parlons des traditions culinaires qui sont attachées avec nos invités. Virginie Godard qui est avec nous, fondatrice du Food Market de Paris. Alors Manu, on rappelle les dates là, du Food Market pour pas qu'il y ait confusion.
Oui, alors le Food Market, c'est bien le 7 février, puisque le Food Market, c'est toujours le jeudi, hein, c'est un jeudi par mois. Mais le Nouvel An chinois, donc le Nouvel An lunaire, démarre le 5 février et dure pendant les festivités, dure une quinzaine de jours. Mais le Food Market, c'est bien le 7. Hein.
Voilà. Et Grace Lee est avec nous également. Vous êtes écrivaine et blogueuse à succès, animatrice du podcast Kif Taras. Et vous venez de publier votre histoire dans un livre qui s'appelle Jeune fille modèle aux éditions Fayard.
Ouais, tout à fait. Alors, Philippe, on parlait juste avant la pause de la symbolique du Nouvel An chinois, parce qu'elle joue un rôle très important jusque dans la nourriture. Et donc, le Nouvel An chinois, c'est l'occasion de préparer des plats traditionnels qui sont censés apporter bonheur et prospérité à toute la famille pour l'année. Alors, on va en citer quelques-uns. Parce que c'est pas exhaustif, hein. La symbolique est tellement large qu'il y a beaucoup de plats qui sont mis à l'honneur, et puis il y a beaucoup de régions en Chine et beaucoup de traditions différentes selon les régions. Alors, par exemple, au Sichuan, on aime bien manger une fondue pour le Nouvel An chinois. Fondues qui sont généralement très épicées, hein. Vous confirmez, grâce à la cuisine sichuanaise, ça met un petit peu le feu, hein,
oui.
Parfois. Et donc au Sichuan, la fondue c'est un plat de fête par excellence, surtout quand il fait froid, hein. Sinon vous avez les raviolis. Alors les raviolis, ils font penser à un petit baluchon, oui, qui dans la tradition chinoise, on avait des petits baluchons comme des bourses, un peu des petites bourses qui servaient à transporter les petits lingots d'or qui faisaient office de monnaie. Donc le ravioli est apparenté à ce petit baluchon qui permet de transporter des petites pépites ou des petits lingots d'or, hein, ou des pièces de monnaie, et donc du coup on l'associe à la prospérité. Donc on mange énormément de raviolis à l'occasion du Nouvel An chinois, en particulier dans le nord de la Chine. Sinon, dans beaucoup de régions, on considère qu'un repas de fête serait incomplet sans un plat de nouilles. C'est un plat porte-bonheur qui est synonyme de longévité. Et d'ailleurs, on ne doit jamais découper les nouilles avant de les mettre dans le plat, parce que plus la nouille est longue, plus la vie sera longue, hein. Donc on garde la nouille entière. Ça, c'est très important. Et donc, plus les nouilles seront longues, plus les convives vivront longtemps, selon la croyance populaire. Alors, on en parlait donc avec Grace juste avant, hein, dans tout repas de fête, il faut aussi obligatoirement un plat de poisson, hein, puisque le mot poisson en mandarin est un homonyme du mot abondance, hein. Donc, l'abondance, ça veut dire qu'on ne manquera de rien tout au long de l'année. Et dans la Chine ancienne, pouvoir manger du poisson pendant le Nouvel An, ça signifiait donc qu'on était à l'abri de la famine pour le reste de l'année. Et donc, on l'a dit, il est très important que le poisson soit servi entier et intact, hein. On ne le sert pas en filet, on ne coupe pas la tête ni la queue, on le laisse vraiment entier. Les légumes aussi sont constamment présents pendant un repas chinois, mais les légumes verts à feuilles longues ont une place vraiment particulière pendant le repas de la veille du Nouvel An, parce qu'ils symbolisent l'unité familiale qui ne doit pas ou ne peut pas être brisée. Ils permettent aussi de souhaiter symboliquement une longue vie aux parents. On sert souvent aussi, alors, des crevettes, mais même plus généralement des crustacés, parce qu'ils représentent le bonheur et le bien-être. Souhaiter une bonne qualité de vie à son prochain semble essentiel dans la culture chinoise. Donc c'est bien de vivre longtemps, mais on considère qu'il faut vivre longtemps et en bonne santé. Donc les crevettes et les crustacés en général assurent cette bonne santé. Et puis pour le dessert, souvent des gâteaux ou des desserts à base de riz gluant, hein, qui sont, alors on parle de nyangao aussi, j'espère que je prononce bien, je sais pas si vous connaissez ça, le gâteau de riz gluant.
Oui,
je sais qu'il y en a,
oui.
Nyangao, alors j'espère que je prononce bien. Donc, le fait de proposer ces sucreries à table, c'est un signe de prospérité encore pour la nouvelle année, et le fait de permettre de s'améliorer aussi au niveau de sa vie.
Et il y a un dessert traditionnel du Nouvel An lunaire qui se mange notamment à la veille, enfin autour de la fête des lanternes, donc 15 jours après le début de la fête du printemps. Il s'agit des tangyuan, c'est à base de riz gluant aussi, donc c'est des petites boules qu'on façonne à la main, qui peuvent être sésame noir ou à d'autres goûts, et qui, vous l'avez dit, pour le riz gluant, c'est vraiment, comme c'est gluant, ça, moi, ma mère me disait, mange ça comme ça, la famille restera unie.
C'est le lien familial,
une question de solidarité.
Le ciment de la famille.
D'ailleurs, la restauration, c'est très important dans votre histoire. Vous avez grandi dans un restaurant qui s'appelait Extrême Orient.
Alors, je voulais dire que c'était pas du tout mon histoire.
C'est
en fait,
pas vous
c'est...
pour raconter.
Oui, non, voilà, non. Comme non. C'est un roman,
en tout cas,
c'est de la fiction.
Ouais.
Et du coup, donc l'héroïne vit dans un restaurant chinois parce que effectivement, quand moi, mes parents avaient un restaurant, ils ont eu un restaurant, et je connais beaucoup de gens qui ont un restaurant, pas D'ailleurs, pas seulement des personnes asiatiques, hein, puisque quand on est immigré, souvent on se tourne vers ce qu'on sait faire pour survivre, c'est-à-dire la cuisine en fait partie, mais il y a aussi autre chose, bien sûr. Et du coup, oui, effectivement, pour moi, la nourriture a été très importante, puisque mes parents n'ont jamais pu retourner dans leur pays, qui était en guerre. Et pour eux, la nourriture, c'était la manière de transmettre leur culture, et ils m'ont fait à manger comme si c'était un goût de leur pays.
Alors, le restaurant de vos parents existe toujours, non ? Il s'appelait comment le...
Alors, mes parents, ils avaient un restaurant à Grenoble qui s'appelait Le Mandarin.
Mais, d'accord, voilà, oui, classique.
C'était pas du
comme
tout...
Comme beaucoup de restaurants chinois.
Absolument. Ça ou la muraille de Chine.
Oui, c'est vrai. Ouais, la muraille de Chine, c'est vrai. Ou quelque chose de bambou.
Est-ce que vous savez faire le riz à l'autocuiseur, par exemple ?
Ah, c'est la base. Bien sûr que je sais faire
le riz à l'autocuiseur. Attendez, c'est la base.
C'est la base. Si vous ne savez pas faire du riz à l'autocuiseur.
Est-ce que c'est compliqué à réussir ?
Vous mourrez de faim. Non, mais. Non, mais justement, l'idée d'avoir un autocuiseur, c'est que c'est simple. Sinon, on prend une casserole et on le brûle. Dans l'autocuiseur, ce qui est bien, c'est que vous le mettez sur votre table. Vous mettez donc du riz en grains, vous le lavez un petit peu.
Mais alors du riz parfumé, hein, souvent, hein, c'est ça.
Moi, je mange du riz long parfumé de Thaïlande ou de Cambodge, voilà.
Pas Oncle Ben.
Non, surtout pas.
Mais non, parce que le riz Oncle Ben, s'il ne colle jamais, et vous avez essayé de manger du riz Oncle Ben, c'est avec des baguettes, Philippe, déjà.
C'est vrai. Non, je vais faire référence à une scène qu'il y a dans le livre. C'est ça, absolument.
Voilà, oui. Non, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose pour moi. Quand je vois un sachet qu'on met au micro-ondes, mais j'ai l'impression qu'on est dans un autre monde là. C'est tellement simple à faire en fait, le riz, c'est tellement meilleur cuit à l'autocuiseur. C'est tellement simple, c'est-à-dire que vous mettez de l'eau, vous mettez le riz, paf, vous appuyez sur le bouton et c'est prêt. Donc c'est presque plus. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça autrement.
Ouais. C'est la modernité, on appelle ça.
La modernité, oui.
Parfois, c'est pas le progrès. Hein.
Non, pas toujours. Quand vous étiez jeune, alors vous êtes fait connaître d'abord par un blog qui s'appelle La Petite Banane.
Oui.
Et en fait, La Petite Banane, c'était votre surnom parce que quand vous étiez à l'école, vous étiez jaune dehors, mais de culture française, donc blanche à l'intérieur. Ça vous suit encore ce surnom
Oui, parce que c'est pour moi, ça représente, c'est un symbole de la deuxième génération d'enfants d'immigrés. C'est-à-dire que mes parents voulaient absolument que je m'intègre, mais ils voulaient aussi absolument que je garde mes racines. Donc ça, c'est très compliqué à comprendre quand vous êtes enfant, puisqu'on vous dit, surtout, ne fais pas de vagues, mais surtout, n'oublie pas d'où tu viens. Donc on a beaucoup de choses à gérer quand on est enfant, hein, parce qu'on grandit, et ça, c'est une couche supplémentaire de soucis, parce que on ne plaît pas à ses parents et à sa famille quand on s'intègre trop. Et par contre, si on garde trop nos origines, si on est très proche de nos origines, on a l'impression de pas être dans la société, d'être exclu de la société. Donc ça prend du temps. Moi, ça m'a mis du temps. Enfin, j'ai pris du temps, moi, pour me réaliser que effectivement c'était une richesse, ma double culture. Et La Petite Banane, c'était une manière pour moi de me réapproprier ces origines en me disant que effectivement je suis née ici, mais je peux être fière de toutes mes origines.
D'accord. Alors j'ai le souvenir d'une vidéo aussi que j'ai vue sur internet où vous étiez avec d'autres jeunes femmes d'origine chinoise ou asiatique, et vous parliez effectivement du communautarisme un petit peu, hein, où on a les parents qui disent ah oui toi tu te marieras avec un Cambodgien, etc. C'est vrai que il y a assez peu de mixité au niveau des couples, hein, dans les communautés chinoises ou même asiatiques.
Alors non, pas du
en
tout
général.
En fait, moi je trouve que ce mot communautarisme est une aberration. D'ailleurs je déteste ce
non,
mot.
Non mais c'est avec des guillemets, hein, attention.
Ça s'entend pas à la radio. Mais en tout cas moi je trouve que être fier de sa communauté, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Moi, ma communauté, c'est des gens avec qui j'ai grandi, ma famille, mon quartier, et aussi des gens qui ne me ressemblent pas physiquement, mais avec qui je partage des choses. Les gens avec qui je travaille, le village, mon pays, mes cultures. Donc tout ça, c'est des communautés dans lesquelles j'évolue. Et donc, évidemment que on est attiré par ceux qui nous ressemblent, avec qui on partage des valeurs. Il n'y a pas de contradiction à ça. Et surtout, je vois pas où est le problème si on choisit des gens avec qui on se sent bien.
Ça ne plaît pas toujours aux parents, justement. C'est
oui,
ça,
et pas non plus à la société, par exemple. Oui. Mais si vous choisissez quelqu'un
sens,
qui vous ressemble, ça n'exclut en rien les autres. Vous voyez, on peut se marier avec des personnes asiatiques tout en étant complètement ouvert d'esprit, comme on peut être avec des personnes d'une autre culture. et ne pas rejeter sa culture d'origine.
Non, mais vous avez raison, c'était pas mon propos. Je voulais juste dire qu'effectivement, vous faisiez partie d'une génération qui se mélangeait plus, alors que les parents avaient des aspirations plus de continuité, de la tradition.
Deuxième génération. Voilà, c'est ça. Ouais, tout simplement.
L'héroïne de votre roman, son petit copain s'appelle Nabil.
Oui, tout à fait. Dans le roman, la jeune fille.
Peur. Je vous ai vu hésiter. J'ai dit, j'ai pas lu le bon livre.
Non, parce que vous avez dit petit copain. Et en fait, dans le roman, c'est une histoire qui est assez naissante. Et du coup, ça me choque quand vous avez dit ça.
Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Dites-moi.
Je sais pas.
C'est quoi son amoureux?
Oui, son amoureux, c'est plus mignon, non?
Son prince charmant, son prince charmant.
Non, mais je suis daté, hein. Mais faut me dire.
C'est autobiographique. Le petit ami d'une autre culture.
Alors moi j'ai eu plein de petits copains de toutes les cultures, donc en fait c'est oui effectivement j'ai pas eu ce problème là mais non Nabil n'a pas été mon petit copain, non.
Voilà. Et si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui sur Beurre FM.
D'ailleurs Nabil justement on l'a au téléphone. on fait Jean-Pierre Foucault là aujourd'hui.
C'est ça.
Là. C'est la sacrée soirée de Grace Lee.
J'étais perdu de vue
sur Beurre FM aujourd'hui.
Sur Beurre FM.
Tout à fait. Ouais, non, effectivement. Non, mais bon, Philippe s'intéresse beaucoup à ça, puisqu'il anime également les petites annonces rencontres sur Beurre FM. Donc forcément, il aime bien marier les gens.
Si je peux aider, hein, quand on peut être utile. Bon, je vous rappelle que vous pouvez aller au Food Market. Ça, c'est important si vous voulez tester et découvrir la cuisine, l'étendue de toutes les cuisines chinoises.
Oui, des cuisines chinoises, c'est vrai. Hein, on ne parle pas de deux cuisines chinoises. Il n'y a pas une cuisine chinoise. Il y a vraiment tellement de régions avec de telles spécificités qu'on parle vraiment des cuisines chinoises.
Vous parliez tout à l'heure de la partie sucrée cette année, Virginie. C'est vrai qu'on connaît mal les desserts de la cuisine chinoise.
Oui, c'est moins représenté. On a réussi à en chercher quelques-uns, en tout cas. Donc cette année, on va retrouver évidemment qu'il y a un peu le, je sais pas si on peut parler de dessert, mais le bubble tea qui émerge beaucoup, qui est plus une boisson,
qui est plus un phénomène de mode qu'une tradition.
Celui-là, ouais. Il est moins traditionnel et du coup, voilà, mais il reste un peu plus, il reste sucré, donc très plébiscité, mais on va avoir aussi des gâteaux de crêpes au durian, on va retrouver évidemment des pâtes de riz fourrées avec...
Je sens le durian d'ici.
Ah oui, oui, absolument.
Alors, oui.
Mais alors, c'est du vrai durian ou c'est de la
c'est
pâte
du vrai
à durian?
J'ai goûté, alors ah ouais. Pour moi, ça a été quand même difficile. On y est allé avec Coco de l'équipe de la taverne de Chao qui, elle, s'est régalée. Bon, ça reste quand même
particulier. C'est quand même très
particulier,
durian. C'est-à-dire que nous, le chef Voilà nous a fait un dessert à base de durian. On se souvient avec Fatima Zora qui réalise l'émission. C'est vrai que le durian, il faut avoir le palais éduqué.
Faut être ouvert, gustativement parlant, oui.
Voilà. Moi j'aime. Non, franchement, moi j'aime bien.
Bah, vous savez, il y a beaucoup d'Asiatiques qui n'aiment pas le durian. C'est pas quelque chose qui fait l'unanimité. Au contraire, hein, c'est soit on l'aime, soit on le déteste.
Bah, c'est vrai. Voilà,
c'est ça. Et c'est quelque chose de très du sud-est. Hein, donc, c'est-à-dire qu'en Chine du Nord, le durian ne pousse pas.
Hein, d'abord, déjà, c'est
ne
cher.
Connaissent pas.
C'est
ah, bah, c'est un mets de luxe. Hein.
C'est très cher, hein, faut dire, le durian.
Ah oui, c'est très luxueux. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est très, très bon à l'état de fruits. C'est-à-dire à l'état.
Alors,
voilà,
je suis entièrement d'accord avec
fruits.
Vous. Ouais, je suis entièrement. Frais, c'est délicieux.
Après, bien sûr, c'est très bon cuisiné. Hein, mais le goût est tellement puissant quand il est à l'état naturel, sortir de l'arbre, que c'est le meilleur.
Oui, c'est à mi-chemin entre l'échalote pourrie et le camembert trop fait, un peu, hein, c'est ça. Hein.
C'est
vous avez
un peu
lu ça quelque
c'est
part.
Un peu, bah, les amateurs de roquefort, de sensations fortes, voilà, connaissent cette sensation d'aimer quelque chose qui a un goût particulier et qui, à l'odorat, ou ne plaît pas aux autres.
Ouais. Alors, grâce, on parlait de dessert. En fait, les desserts, c'est un peu le gros absent de la gastronomie chinoise, parce qu'on mange beaucoup de fruits à la fin des repas en Chine. Mais les desserts, il y en a assez peu finalement dans la gastronomie chinoise. Ils sont surtout réservés à des repas de fête.
Alors non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est très méconnu. La gastronomie chinoise reste encore méconnue en dehors de la Chine. Et moi, en fait, ce qu'on m'a expliqué et ce que j'ai vu quand je suis allée en Chine, c'est qu'il y a énormément de mets sucrés, mais tout simplement, on ne les mange pas en fin de repas. C'est-à-dire que vous les mangez à d'autres heures de la journée. Donc les Chinois, je parle de ce que je connais, donc les personnes chinoises sont... la société chinoise est régie, enfin, est influencée par la médecine du Tao. Donc dans le Tao, on vous exhorte à ne pas à manger plus souvent, mais moins. Donc il y a un fractionnement des repas qui est très différent de la tradition française que je connais, qui est 3 repas par jour, ouais, et entrée plat dessert pour les 2 repas de la journée. Donc il n'y a pas de recommandation de manger entrée plat dessert dans la médecine du Tao, et il est même fortement déconseillé de manger du sucré en fin de repas parce que vous ne le digérez pas bien. Donc les personnes asiatiques pour qui les aliments sont comme des médicaments, on appelle ça comme des alicaments, c'est-à-dire qu'ils mangent pour se maintenir en bonne santé, ils ne fonctionnent pas de la même manière que les personnes en France et notamment aussi en Occident d'une manière générale. Et donc le sucré ne se mange pas en fin de repas. Donc si vous voulez absolument terminer sur une note sucrée, vous pouvez manger un fruit, mais c'était pas, dans ma famille, c'était pas recommandé. On mangeait des desserts en dehors de ça, donc voilà, de manière absolument autonome.
Bien, alors notez bien que le Food Market, c'est le jeudi 7 février à partir de 18h, et que Grace Lee, votre roman vient de sortir, s'appelle Jeune fille modèle aux éditions Fayard. Merci à toutes les deux
d'avoir
été avec nous. Manu, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.